Midi 30, 13h, le journal de la mi-journée sur Europe 1, c'est avec vous Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
Je pense que soit ils ont mis de l'essence ou un cocktail Molotov, parce que ça a bien pris feu. Heureusement que les pompiers sont arrivés assez vite.
C'est la piste d'un acte volontaire qui est privilégié après un départ de feu. Ce tôt ce matin, avec des dégâts matériels à la brasserie La Rotonde, établissement où Emmanuel Macron avait reçu ses soutiens entre les deux tours de la présidentielle, nous serons sur place. On ne sait rien de ceux qui sont à l'origine de ce début d'incendie, mais cela intervient dans un contexte de tension autour du débat de la réforme des retraites et la sortie mouvementée du président Macron au théâtre hier soir, avec une trentaine de manifestants qui ont tenté d'entrer dans la salle. La secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, Agnès Pannier-Runacher, dénonçait ce climat sur Europe 1 ce matin.
C'est une atteinte à la démocratie. C'est la minorité contre la majorité. La violence contre le respect des institutions.
Dans le reste de l'actualité, une explosion accidentelle vraisemblablement due à une fuite de gaz à Limoges qui a fait 3 blessés.
Un coup de tonnerre.
Des policiers soupçonnés de racisme envers un collègue et des détenus, et même des magistrats, nous dira Salomé Legrand. Le début mardi à Washington du procès en destitution de Donald Trump. Qu'est-ce qui se joue? On posera la question à mon invité, le spécialiste des États-Unis Jean-Éric Brana, à 12h45. La météo avec l'hiver qui est bien là, nous dira Valérie Darmon. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Nous reviendrons sur le procès du père Prénat qui s'est achevé hier soir.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc l'information de la matinée. La brasserie La Rotonde à Paris, touchée par un début d'incendie tôt ce matin. Ce restaurant dans le quartier Montparnasse, c'est celui où Emmanuel Macron avait ses habitudes avant de rentrer à l'Élysée, où il avait réuni ses soutiens entre les deux tours de la présidentielle. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes sur place pour Europe 1. Quelle est l'étendue des dégâts et qu'est-ce qu'on sait pour l'instant de ce qui s'est passé ?
Bien que l'incendie est parti aux alentours de 5h du matin, rapidement maîtrisé, il a détruit une dizaine de mètres carrés de la brasserie, quelques tablettes et canapés de velours rouge, le plafond qui se trouvait juste au-dessus aussi. L'alerte a été donnée par des policiers dépêchés sur place car le système de sécurité du restaurant avait détecté une intrusion, ce qui laisse peu de doute à Serge Tafanel, le gérant de La Rotonde, sur l'origine de l'incendie.
C'est d'ordre criminel, presque sûr, on attend le résultat de l'enquête, mais vitres cassées. Sur le côté, je pense que soit ils ont mis de l'essence ou un cocktail Molotov, parce que ça a bien pris feu. Heureusement que les pompiers sont arrivés assez vite. On savait que on avait déjà reçu plusieurs fois des menaces. Il y avait déjà eu une tentative d'incendie la nuit du 9 au 10 janvier, qui avait, entre parenthèses, échoué. Et cette nuit, ils sont revenus. Pour moi, c'est un acte de lâcheté.
Des traces d'hydrocarbures ont été décelées, ce qui oriente les policiers de la Sûreté territoriale vers un acte volontaire. Et selon nos informations, un gilet jaune a été retrouvé sur place. Mais le lieu précis de la découverte et le lien éventuel avec cet incendie reste à déterminer.
Merci beaucoup Jean-Sébastien Soldaini. Alors donc, pour l'instant, on ne sait pas les motivations de ceux qui ont tenté d'incendier cet établissement tôt ce matin. Mais cela intervient dans un contexte de tension autour du débat sur la réforme des retraites. Hier soir, ce sont des manifestants qui se sont rassemblés devant un théâtre, celui des Bouffes du Nord, dans le quartier de la Chapelle à Paris. Emmanuel Macron et sa femme y assistaient à une représentation. Certains ont même tenté de pénétrer à l'intérieur du théâtre. Le président a dû être mis en sécurité quelques minutes. Pour autant, Adrien Beck, du côté de l'Élysée, on minimise l'incident.
Oui, surtout ne pas laisser transparaître la moindre inquiétude. Ce qui s'est passé hier soir n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Voilà ce qu'on nous fait comprendre à l'Élysée. Il n'empêche, c'est quand même l'image d'une voiture présidentielle contrainte de quitter le théâtre, encadrée par un cordon de policiers, huée par quelques dizaines de manifestants qu'on a pu voir. L'entourage du chef de l'État ne veut pas non plus donner l'image d'un président qui s'enfuit. Il n'a pas été exfiltré, nous dit-on. Il est resté juste jusqu'à la fin de la pièce. Mais dans la majorité, certains se disent tout de même très inquiets de ce climat entre cette manifestation hier soir, l'envahissement du siège de la CFDT hier encore. Écoutez ce matin sur Europe 1 le ton grave de la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher.
C'est une atteinte à la démocratie. Là, on en appelle aux citoyens et on dit aux citoyens, est-ce que vous voulez être gouverné par la violence ou est-ce que vous voulez être gouverné par le vote ? Aujourd'hui, c'est antidémocratique cette approche. C'est la minorité contre la majorité. C'est la violence contre le respect des institutions. C'est de ça qu'on parle.
Voilà, et comme pour montrer qu'il n'y a aucune inquiétude au sommet de l'État, l'Élysée nous assure qu'Emmanuel Macron continuera à se rendre au théâtre, comme il en a l'habitude.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Nous sommes en ligne avec Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférences à Paris 2. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va rester prudent sur ceux qui sont à l'origine du début d'incendie à la Rotonde, mais revenons avec vous sur la sortie au théâtre d'Emmanuel Macron. On l'a dit, chahuté hier soir par des manifestants. Il y a eu aussi cet envahissement du siège de la CFDT. Ça témoigne de quoi ?
Si vous voulez, je crois qu'il faut déjà peut-être dissocier les deux événements. Dans le premier événement, on est face à un événement, je parle de l'invasion du siège de la CFDT, qui est coordonné par des grévistes dans un objectif propre à la question des retraites. Là, hier, ça témoigne beaucoup plus d'un climat qui est un climat aujourd'hui de violence latente dans une partie de la société, je dirais dans l'ensemble des sociétés occidentales, et qui vise d'abord et avant tout les représentants, qui vise d'abord et avant tout les institutions. Et dans un régime politique comme la France, où l'incarnation de ces institutions est concentrée, hyper concentrée, autour de la figure du président de la République, eh bien toucher, même indirectement, en l'obligeant à fuir le président de la République, eh bien c'est justement s'attaquer à ces institutions, remettre en cause leur légitimité et leur solidité.
Mais justement, Benjamin Morel, est-ce qu'on monte d'un cran ? Est-ce que c'est inédit sous la Ve République ? On se souvient encore effectivement aussi de la visite du président Macron au Puy-en-Velay l'année dernière. Il était venu soutenir des employés de la préfecture et il avait été conspué à sa sortie. Est-ce que cette violence, c'est nouveau sous la Ve ?
Je dirais que depuis la guerre d'Algérie, en tout cas, on n'a pas connu de montée aux extrêmes en termes de violence face à un chef de l'État aussi grande depuis, en effet, le début de la Ve République, excepté la période dont je viens de parler. Donc oui, on est face à quelque chose qui est particulier, qui est atypique du point de vue temporel, qui montre une forme d'ébullition de la société, d'acceptation, je fais référence aux enquêtes d'opinion qui étaient parues au moment des Gilets jaunes, d'acceptation d'une partie de la société aujourd'hui, d'une partie de l'opinion, de méthodes qui sont des méthodes violentes. Et là, il y a un vrai danger, c'est-à-dire il y a un aspect groupusculaire parce qu'on parle d'une poignée d'individus, mais il y a également un public pour ça, si vous voulez. Et là, c'est plus inquiétant. Après, c'est pas encore une fois une singularité française. Vous voyez ce qui se passe en Italie, vous voyez ce qui se passe dans une moindre mesure en Grande-Bretagne, même en Allemagne. Aujourd'hui, très clairement, la représentation et les institutions deviennent des cibles pour une partie plus ou moins importante des citoyens.
Merci beaucoup Benjamin Morel d'avoir été avec nous en direct ce midi dans ce journal. Je rappelle, docteur en sciences politiques et maître de conférences à Paris. On referme cette page et à suivre des policiers soupçonnés de racisme à Rouen. La police des policiers saisie, on les suspecte de propos racistes envers un collègue des détenus et même des magistrats.
Il est midi 40, vous écoutez Fabienne Lemoyle sur Europe 1, la suite du journal.
Des policiers soupçonnés de racisme à Rouen, tout est parti de la plainte d'un de leurs collègues pour injures à caractère racial et pour incitation à la haine. L'IGPN, la police des polices, a elle été saisie jeudi. Et ces policiers, Salomé Legrand, sont tout simplement soupçonnés d'avoir tenu des propos haineux et racistes envers un collègue noir et des détenus.
Et oui, et même des magistrats, Fabienne. Ces policiers appartiennent à l'unité affectée au dépôt du tribunal de Rouen et qui s'occupe donc des déplacements des détenus vers les salles d'audience ou les cabinets des juges d'instruction, par exemple. C'est un de leurs collègues qui a découvert par hasard ce groupe WhatsApp, groupe au sein duquel s'échangeaient des propos haineux, racistes, homophobes, xénophobes. On ne va pas les citer à l'antenne, hein, mais ils sont sans ambiguïté. Ces messages concernent autant ce policier qui a donc déposé plainte, mais aussi les détenus dont l'unité avait la responsabilité, et des magistrats et des magistrates. Tous les policiers concernés ont été convoqués dans le cadre d'une enquête administrative pour manquement professionnel et déontologique. Ils sont toujours en poste, mais devraient être renvoyés prochainement en conseil de discipline. Les cinq les plus actifs dans la conversation sont eux sous le coup d'une enquête judiciaire, confiée donc à la police des polices.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. C'est la piste d'une fuite de gaz qui est privilégiée à Limoges après l'explosion qui a touché un quartier du centre-ville ce matin vers 8h30. Trois blessés, dont deux graves. Marion Gauthier vient de joindre Yacine, commerçant sur le marché Carnot-Marceau.
Un coup de tonnerre que vous multipliez par 10, quoi. Tout le quartier a tremblé. Je ressens encore dans mes jambes le sol trembler, quoi. C'est impressionnant. Puis là, on a vu un gros panache de fumée, de poussière et de débris même. Donc on s'est précipité pour voir d'où ça venait. Et c'est là qu'on est arrivé. Et la maison a été complètement par terre, éventrée, avec des flammes. Il restait que un tas de gravats, hein. C'est impressionnant. On a entendu clairement les appels au secours qui venaient de la maison, hein. C'est ce qui nous a le plus inquiété, quoi. On peut rien faire. Ah, c'était horrible. Maintenant, on est super content parce que, d'après ce qu'on a entendu, qu'il n'y a que des blessés légers, mais on se demande comment c'est possible, honnêtement. Vu l'état de la maison et les flammes qui commençaient à se propager, on peut parler d'un miracle.
Un témoignage recueilli par Marion Gauthier. Et puis à Clermont-Ferrand, notez que des épreuves du bac ont été annulées ce matin dans un lycée de la ville. Environ 300 militants, enseignants et étudiants se sont réunis devant le lycée et ont investi des couloirs pour perturber les épreuves, a dit le chef d'établissement du lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Vous le savez, plusieurs syndicats d'enseignants ont appelé au boycott du nouveau baccalauréat alors qu'il y a déjà les premières épreuves anticipées qui se déroulent à partir d'aujourd'hui.
Le journal des sports.
Avec Simon Rubin. Et on commence évidemment avec du football. Week-end de Coupe de France avec d'ici quelques minutes le match du Petit Poucet, Simon.
Eh oui, c'est la jeunesse sportive Saint-Pierroise, club de 6e division et seulement la 2e équipe ultramarine à accéder au 16e de finale dans l'histoire de la Coupe de France. Les réunionnais de la Saint-Pierroise qui se déplacent du côté d'Épinal, club de National 2, Épinal, où l'on retrouve Patrick Muller, notre correspondant. Patrick, le Petit Poucet très attendu chez vous.
Oui, la Saint-Pierroise qui rêve de faire durer son incroyable aventure, qui rêve d'un nouvel exploit ici à Épinal. Les Réunionnais qui évoluent en Régional 1 ont fait tomber Niort, club de Ligue 2 au tour précédent et espèrent devenir tout simplement les premiers joueurs d'outre-mer à atteindre les huitièmes de finale de la Coupe de France. Et pour la petite histoire, il s'agit de leur troisième match en métropole depuis le début de leur incroyable parcours. Ils sont d'ailleurs arrivés dès ce lundi dans les Vosges. C'est une des belles histoires de la Coupe de France.
Patrick Muller, et on l'aura compris, il y aura un peu de vent pour ce match. On rappelle qu'hier, en ouverture de ces 16e de finale de Coupe, hein, Marseille s'est défait sur la fin de match de Granville 3-0.
Et oui, les Normands y ont cru pendant au moins une mi-temps. Hein. Et outre les amateurs de la Saint-Pierroise, beaucoup de matchs aujourd'hui et souvent d'ailleurs des confrontations entre amateurs et professionnels.
Comme le club de Gonfreville, 5e division, hein, c'est à côté du Havre, qui reçoit Lille à 13h. Belfort, un peu plus tard, accueille Nancy. Angoulême reçoit Strasbourg. Et puis Nice affronte le Red Star. Le Red Star, le club de Saint-Ouen près de Paris, club chargé d'histoire et qui aurait dû accueillir ce match mais qui n'a pas trouvé de stade adéquat. Frédéric Hélion, c'est donc chez vous, à Nice, qu'aura lieu ce match finalement.
Oui, effectivement, puisque la Fédération française de football, eh bien, en accord avec la préfecture de police de Paris, a refusé que le match se joue à Saint-Ouen, à Bower, dans l'enceinte mythique du Red Star, estimant eh bien, que la vétusté du stade et que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour que donc le club francilien accueille le GC Nice, puisque lors du tirage au sort, c'était bien le Red Star qui devait accueillir le GC Nice. Mais au final, le club avait tout de suite sorti un communiqué disant qu'il ne souhaitait recevoir le GC Nice qu'à Bower et nulle part ailleurs. Donc pas de match à Créteil ou en région parisienne. C'est donc pourquoi on se retrouve ici à l'Allianz Riviera donc pour ce 16e de finale entre le Red Star qui joue la montée en Ligue 2, hein, deuxième en National, et le GC Nice bien calé en milieu de tableau, 11e de Ligue 1, qui l'envoie dans un quart d'heure, Simon.
Frédéric Hélion, correspondant de Europe 1 à Nice.
Et puis autre affiche à 18h ce soir qui mettra aux prises un club parisien, le Paris FC, qui reçoit au stade Charletti Saint-Étienne.
On termine avec le rugby, la dernière journée des matchs de poule de Coupe d'Europe à 14h. Lyon reçoit Northampton sans n'avoir plus rien à jouer. À 16h15, Clermont assuré de jouer l'écart ira batailler au Harlequins à Londres en espérant arracher la première place du groupe. Et puis, 18h30, La Rochelle ira achever sa campagne à Exeter avec tout de même un infime espoir de qualification. Mais il faudra gagner en marquant 4 essais au moins.
Merci beaucoup Simon Rubin. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi. Eh bien ça y est, on a enfin un temps d'hiver, Valérie Darmon.
Absolument Fabienne, sans originalité, avec des températures de retour dans les normales de saison et des thermomètres qui affichent cet après-midi 7 à Embrun et Charleville, 8 à Clermont-Ferrand, 9 degrés à Strasbourg, à Lyon et à Paris, 10 degrés à Toulouse et Bordeaux et 12 degrés à Marseille. Côté ciel, en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, le ciel est toujours plus nuageux qu'ailleurs, avec l'arrivée en plus d'une nouvelle dégradation par les Pyrénées-Atlantiques et les Landes qui apportent de la pluie aujourd'hui et demain et de la neige dès 1800 mètres sur l'ouest pyrénéen. La nuit prochaine, la limite puis neige qui va même s'abaisser à 800 mètres. Partout ailleurs, les éclaircies s'imposent et demain dimanche, il pleuvra toujours un peu des Pyrénées vers la Corse avec de la neige possible en basse altitude. Ailleurs, après un froid matinal un peu plus marqué qu'aujourd'hui, le ciel se dégagera donc dans l'après-midi.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, c'est donc mardi que va s'ouvrir à Washington le procès en destitution de Donald Trump. Un procès qui va être très vite bouclé, disait il y a quelques jours le président américain. Est-ce que c'est au point de se demander si les jeux sont déjà faits ? comme ce sont des sénateurs majoritairement républicains qui vont le juger. On va poser la question dans un instant à Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Il a publié « Et s'il gagnait encore » aux éditions VA et Joe Biden, le troisième mandat de Barack Obama. Il est mon invité.
Il est 12h50, le journal de la mi-journée se poursuit avec maintenant votre témoin de la semaine, Fabienne Lemoyle.
Et si c'était un procès pour rien, c'est ce qu'on serait tenté de penser à propos du procès en destitution qui s'ouvre mardi à Washington devant le Sénat américain, puisque Donald Trump a dit lui-même que ce serait très vite bouclé. Bonjour Jean-Éric Brana.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des États-Unis, je le disais, vous avez publié « S'il gagnait encore », Joe Biden, le troisième mandat de Barack Obama, aussi aux éditions VA. Il a raison Donald Trump de dire que ça y est, tout est joué ?
Alors, il commence par la fin du match, c'est quand même un peu bizarre, il faut le jouer avant. En réalité, on est là dans une procédure tellement calibrée, même si dans la Constitution il n'y a pas grand-chose, mais c'est quand même très calibré, très très grave aussi, parce qu'on touche au constitutionnel, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc on a sur le papier, effectivement, ça se passe comme ça. Mais j'ai envie de dire, puisqu'on parle souvent de sport sur votre antenne, vous voyez, si on fait la Coupe de France, eh bien, quelquefois c'est le petit poussé qui renverse le très gros et on ne s'y attend pas. Donc là, en réalité, on va peut-être laisser le match dérouler et voir ce qui se passe.
Mais est-ce que Donald Trump dit ça parce que le Sénat est majoritairement républicain et que du coup, Donald Trump considère que ses sénateurs ne peuvent que le considérer innocent ?
Non, ce n'est pas parce qu'il a la majorité qu'il considère qu'il a gagné, c'est parce que cette majorité a un angle très particulier aujourd'hui, elle le suit quoi qu'il fasse. Et c'est vrai que là, on a un vrai changement avec le moment où il a été élu. Souvenez-vous, hein, ces républicains qui disaient jamais Trump. Et aujourd'hui, effectivement, parce que l'électorat est foncièrement derrière Donald Trump à plus de 90%. Donc, quand on est sénateur, on ne peut pas ignorer l'électorat qui vous dit à 90% « je suis pour le président ».
Alors, on va revenir sur ce qui se joue dans ce procès à partir de mardi. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ?
Alors, on lui reproche d'avoir voulu faire pression sur le président Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, pour faire une enquête contre un de ses opposants et celui qu'on pense être le futur opposant pour l'élection générale,
Joe Biden,
en novembre 2020, donc qui pourrait éventuellement le remplacer à la Maison-Blanche si jamais il le battait.
Et qu'est-ce qui se joue dans ce procès ? Parce que ça tombe en plus en pleine campagne électorale, justement. Et on se demande à qui profite le crime, à qui ça va profiter.
Ben en réalité, tout le monde se le demande. Alors là, les paris sont totalement ouverts. C'est vrai que les démocrates pensent qu'en mettant la pression sur Donald Trump, en le marquant du sceau de l'impeachment, et il ne cesse de répéter que désormais il est marqué à vie, ce qui est vrai. Dans tous les livres d'histoire, il sera le troisième président impeached de l'histoire des États-Unis. Et ils pensent que ça va faire...
S'il est condamné.
Non, parce qu'il a été impeached.
Parce qu'il est sous le coup de cette procédure.
S'il est condamné, il sera destitué. Alors là, on rentrera dans la grande histoire, il sera le premier destitué. Je pense que vous me réinviterez pour qu'on en parle à ce moment-là, si ça devait arriver. Mais on n'en est pas là, et normalement on n'en sera pas là. Les démocrates pensent qu'en mettant cette pression-là, ils jettent l'opprobre sur le président, et donc beaucoup de gens retiendront leur vote et diront « bon, il vaut mieux que je prenne quelqu'un de moins problématique ». Et pour Donald Trump, il s'agit de montrer que les démocrates le poursuivent quand même depuis le premier jour, et c'est vrai que c'est difficile de dire le contraire, puisque le mot destitution a dû être prononcé quelques millions de fois depuis que Donald Trump est au pouvoir, quasiment tous les jours. Et donc, il peut parler de chasse aux sorcières en disant « écoutez, ça ne s'arrête pas ».
Effectivement, c'est ce qu'il a dit avant le début de ce procès qui débute, on l'a dit, donc mardi. Je dis à qui ça profite ? Est-ce que ça peut profiter aux démocrates qui n'ont toujours pas de candidat ? Eux, c'est le cas aussi pour les républicains, mais on voit bien qu'a priori, on ne voit pas comment Donald Trump pourrait ne pas être investi par les républicains. Du côté des démocrates, la difficulté, c'est que là, les sénateurs ne peuvent plus faire campagne.
Les sénateurs peuvent faire campagne. Entre eux qui sont sénateurs et candidats ne peuvent pas faire campagne. Voilà. Les autres candidats font campagne.
Oui, mais dans les quatre qui ne peuvent pas faire campagne, il y a quand même Bernie Sanders, Elizabeth Warren,
Amy Klobuchar et Michael Bennett, comme ça on les a nommés les quatre, autant le faire. Ceux-là, effectivement, ne peuvent pas faire campagne à part le dimanche. Donc ils pourront aller effectivement dimanche prochain dans l'Iowa et se rappeler au bon soin des électeurs. C'est un vrai problème. Effectivement, c'est un vrai problème, d'autant que Bernie Sanders est au coude à coude avec Joe Biden dans les sondages. Donc savoir qui qui va passer devant, c'est effectivement pas facile. C'est un vrai problème pour Elizabeth Warren, qui était en vraie descente ces derniers temps et qui espérait là une remontée sur la fin. Et finalement, elle ne peut pas faire campagne pour défendre sa candidature et la cause des femmes, puisque désormais, c'est ce qu'elle compte représenter. Donc, c'est effectivement, ça change complètement l'issue de ces primaires. Oui.
Jean-Yves Grana, pour terminer, vous me le disiez quand on a préparé cette interview, on parle beaucoup de ce procès en destitution, c'est des mots qui claquent, ça a du sens effectivement aussi pour les Américains parce que c'est la Constitution, c'est un acte fort, mais vous dites finalement, le peuple américain, lui, s'y intéresse pas tellement.
Oui, alors ça compte d'abord parce que la loi est importante aux États-Unis et quiconque a mis un pied aux États-Unis a entendu cette phrase, c'est la loi. Donc on respecte la loi, alors pensez donc la Constitution qui est la mère de toutes les lois, c'est vraiment très important dans la tête d'un Américain, il ne faut pas l'oublier. C'est important parce qu'il y a le patriotisme, que là on parle quand même du président des États-Unis et qu'on parle des plus hautes instances du gouvernement et du Congrès. Mais effectivement, dans la vie de tous les jours, les Américains se disent que quand même c'est très loin de leurs préoccupations. Et aujourd'hui, alors qu'il y a une campagne électorale, ils aimeraient entendre parler de leur vie et de solutions qui sont apportées par les deux camps.
Merci beaucoup Jean-Éric Brana, je rappelle spécialiste des États-Unis. On le rappelle donc... Ce procès débute mardi devant le Sénat à Washington. On a bien compris que Donald Trump, lui, espère que ce sera bouclé en une semaine et demie. On verra bien ce qu'il en sera. Je rappelle que vous avez publié « Et s'il gagnait encore » aux éditions VA et « Joe Biden, le troisième mandat de Barack Obama ». Joe Biden dont vous nous dites quand même qu'il est pour l'instant peut-être favori pour l'investiture pour les démocrates. Et puis vous le savez, on poursuit à 13h cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Nous reviendrons sur le procès du père Prana qui s'est achevé hier soir. Au moins 8 ans de prison requis contre ce prêtre qui était pour la première fois face à ses victimes, de jeunes scouts à l'époque qui ont osé briser la loi du silence. Nous verrons comment ils ont vécu ce face-à-face. Europe 1.